Vous écoutez France Culture.
Nulle civilisation, plus que celle de l'Égypte, n'a eu l'intuition du surhumain. Au pays merveilleux des pharaons, grâce aux divins, à la pratique incessante de rites, les Égyptiens se seraient-ils affranchis des contingences terrestres? Plus d'un le pense encore aujourd'hui. Cet après-midi, avec Pascal Vernus, nous prendrons totalement à contre-pied cette vision d'une Égypte ancienne, idyllique et harmonieuse, pour mettre en évidence que cette société a aussi été secouée par de graves crises des valeurs. Pascal Vernus, bonjour.
Bonjour.
Directeur d'études à l'EPHE, vous êtes un de nos meilleurs spécialistes de linguistique et de philologie égyptienne. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont l'un, Affaires et scandales sous les Ramsès, aujourd'hui réédité chez Pygmalion, sera au cœur de notre émission. Pascal Vernus, commençons peut-être par l'archéologie du passé fictif. Pourquoi l'Égypte fait-elle tant rêver? Pourquoi évoque-t-on si souvent tous ces savoirs cachés?
Pour trois raisons. D'abord, parce qu'elle est monumentale. Il suffit de penser aux pyramides. Deuxièmement, parce qu'elle est romantique. Tout le monde connaît l'histoire de Toutankhamon qui touche notre inconscient, la découverte de la grotte d'Ali Baba. Et puis la troisième raison, la plus profonde, c'est parce que l'Égypte a su se donner un style caractéristique et accessible. Elle a réussi le prodige de faire passer pour naturel l'artifice. Je veux dire par là que les représentations égyptiennes sont très codifiées, mais elles sont codifiées d'une manière telle qu'elles paraissent naturelles. Et c'est l'espèce de génie de l'Égypte ancienne qui la rend si populaire. Vous pouvez aller dans la rue, montrer un objet égyptien, immédiatement le premier passant venu vous dira que c'est égyptien. Maintenant, si vous lui montrez un objet assyrien, je crains qu'il ne fasse pas la même réponse.
Oui, ça veut dire aussi que les bases de notre propre culture du XXIe siècle est gréco-romaine, mais aussi égyptienne.
Et je pense même que l'Égypte ancienne est de plus en plus en train de supplanter dans notre passé parangon l'Égypte gréco-romaine. Maintenant, dans la publicité, on voit que l'archétype du passé, c'est la pyramide de Khéops, c'est l'Égypte ancienne.
Oui, mais cela n'explique pas non plus l'antigravitation, la liquéfaction des pierres, etc., etc., que quelques grands scientifiques prônent quelquefois dans quelques journaux.
Ça, c'est le revers de la médaille. Parce que c'est prestigieux, eh bien, on a tendance à vouloir en faire trop, en faire plus et en faire trop. Bien entendu, les Égyptiens ont réussi ce prodige de l'artifice passant pour naturel de ces pyramides, mais en même temps, c'était des gens de chair et d'os comme nous-mêmes, il ne faut pas l'oublier.
Donc si je vous comprends bien, quand on fait de l'archéologie, on a tout intérêt à faire de l'égyptologie.
Absolument.
Dans la longue histoire de l'Égypte, les Ramsès sont absolument incontournables. Cette période ramesside signe-t-elle l'apogée de la société pharaonique?
Je dirais que c'est plutôt la post-apogée. L'apogée réelle, c'était la 18e dynastie, disons grosso modo, pour ne pas compliquer, le 14e, 13e siècle. Les ramessides, c'est le 13e, 11e siècle. C'est les conséquences de cette apogée, c'est plutôt le sommet, mais vu du côté de la descente qui commence.
Alors on parle bien sûr toujours de Ramsès II, qui est lui absolument incontournable. Il y en a bien d'autres.
Il y a d'autres pharaons.
Jusqu'à 9 peut-être.
Il y a 11 Ramsès. 11 Ramsès, mais Ramsès II est le plus célèbre à juste titre parce qu'il a écrit partout. C'est un maniaque des inscriptions. Et des inscriptions au nom de Ramsès II, il y en a depuis la Nubie jusqu'à la côte méditerranéenne, parfois de lui, parfois en surcharge sur celle de ses prédécesseurs.
Alors pourquoi parle-t-on aussi peu des autres jusqu'au 11e?
D'abord parce que Ramsès II, c'est le plus spectaculaire. Il a vécu longtemps. Il a quand même régné pendant 67 ans. Donc ça fait quand même un long règne. Les autres font pas le figure. Et puis Ramsès II, il a quand même à son actif la bataille de Kadesh. Cette confrontation avec le royaume hittite, c'est donc un niveau de géopolitique. Les autres sont beaucoup plus pâles à cet égard.
Et cette œuvre, il y a un véritable style ramesside?
Il y a un style ramesside qui d'ailleurs est plutôt un style en décadence. Le début de l'époque ramesside se rapproche des canons de l'apogée de l'époque de Séti Ier ou même de la 18e dynastie. Et puis peu à peu, on sent venir la décadence dans la deuxième moitié du règne de Ramsès II.
Alors chronologiquement, la période ramesside et le Nouvel Empire, si je ne m'abuse, on est dans une période qui tourne autour du XIIIe siècle avant notre ère.
C'est exactement ça. Jusqu'au XIe siècle. L'époque ramesside, c'est disons entre 1250 et 1050 avant Jésus-Christ. Grosso modo, parce qu'il y a toujours des fluctuations.
Pour mieux décrypter cette société, vous ouvrez 5 dossiers quelque peu étonnants. Le premier concerne les croyances funéraires. La volonté d'acquérir dans l'au-delà, de l'au-delà, pour les Égyptiens aurait constitué une grande partie des activités de la société et affecté donc l'économie. On produit pour les tombes ?
Absolument. C'est un des traits les plus frappants de l'Égypte pharaonique, c'est l'accent mis sur les croyances funéraires et surtout la mobilisation des énergies, des biens au service de la survie posthume. Et bien entendu, plus on est haut placé, plus on peut mobiliser d'énergie et de biens. Et c'est à un point que toute l'économie égyptienne est tournée vers le matériel pour la tombe.
Alors je vais faire un parallèle quelque peu curieux. On a bien sûr lu Effondrement de Jared Diamond avec les sociétés mayas et notamment les élites mayas qui captent comme ça pour eux l'essentiel des produits. On est dans quelque chose d'à peu près similaire.
Absolument. Je crois que c'est une réflexion générale qu'on peut se faire sur ces sociétés antiques ou relativement antiques. C'est le fait qu'une petite élite dans l'Égypte ancienne, c'est 1%, 2% de la population qui arrive à mobiliser pour son bien-être et son bien-être funéraire en plus. Ce qui est d'autant plus étonnant, la plupart des ressources en énergie et en hommes de ce pays. C'est quelque chose qui est un phénomène sur lequel on n'a pas fini, à mon avis, de réfléchir et qui donne beaucoup à penser sur le destin de l'humanité.
Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que là, nous sommes autour du XIIIe siècle avant notre ère, mais le phénomène semble beaucoup plus précoce, dès la période prédynastique, c'est-à-dire peut-être même avant les pharaons. Déjà, on capte tous ces biens et notamment une équipe allemande a fait récemment une très jolie découverte.
À Abydos, les Allemands, en fouillant sur d'anciennes fouilles françaises, ont découvert la tombe d'un, ce n'est pas un pharaon, c'était un roi qui régnait 2 siècles avant l'institution des pharaons, c'est-à-dire vers 3200 avant Jésus-Christ. Et dans sa tombe étaient entassées déjà des centaines de jarres de vin qui impliquaient le contrôle sur la production de vin qui, à l'époque, se faisait autour de la région de Gaza actuelle, grosso modo. Donc c'est absolument incroyable. À l'époque prédynastique, 200 ans avant les pharaons, déjà il y avait des souverains qui régnaient sur une petite partie de l'Égypte, mais qui arrivaient à mobiliser des productions énormes de vin uniquement pour leur survie funéraire. C'est quelque chose, quand on y réfléchit, c'est hallucinant.
Et ce vin a une place particulière dans
la
pratique ?
Oui, le vin est
quelques
une place...
Quelques banquets, par exemple ?
D'abord dans les banquets, dans la vie quotidienne, mais aussi comme instrument de régénération dans l'au-delà. C'est une espèce de liquide auquel on prête des vertus pour la survie.
Doit-on penser que les premiers pillages de tombes, qui auraient eu lieu bien sûr à l'époque, étaient l'occasion de réinjecter dans la société des biens immobilisés par les morts ?
C'est absolument vrai. L'un des traits de l'économie, je mets économie entre guillemets bien sûr, de l'Égypte pharaonique, c'est le fait que la croyance à la survie a un double effet. D'une part, elle immobilise des biens, mais en même temps, ces biens sont réinjectés parce que le pillage est une pratique continue.
Quoi qu'il en soit, notre première affaire, notre première enquête nous entraîne à Thèbes, dans sa nécropole, sous Ramsès IX, là où Pharaon fait réellement creuser sa tombe. Que se passe-t-il ?
Alors il se passe la chose suivante. Thèbes est divisée en 2 parties. La partie orientale, la Louxor actuelle, pour ceux qui ont été en Égypte, c'est la ville urbaine. Et puis l'autre côté, ce qu'on appelle l'Occident de Thèbes, c'est les nécropoles. Et parmi ces nécropoles, il y a la fameuse Vallée des Rois, où chaque pharaon se fait construire sa tombe dès qu'il arrive sur le trône. Alors à ce moment-là, il commence des pillages. Ces pillages, au début, sont des affaires, de petites affaires, des faits divers. Mais voilà ce qu'il arrive. La région occidentale et la région orientale avaient chacun un chef. Pour la région orientale, il s'appelait Passer. Pour la région occidentale, il s'appelait Paura. Et les deux se détestaient. Imaginez deux crocodiles dans un marigot, c'est quelque chose qui n'est pas absolument étranger à notre mentalité. Ils se détestent. Et alors, pour embêter son collègue qui est responsable justement de la nécropole, le grand Manitou de la région orientale va transformer ce fait divers en affaire d'État. Il va le manipuler uniquement pour faire pièce à son collègue et néanmoins ennemi.
Et vous, on peut penser que les deux sont corrompus ?
Bien entendu, ils sont corrompus l'un comme l'autre, mais ils vont jouer la carte de la vertu. C'est-à-dire que le Passer, l'homme de la région orientale, va jouer la carte de la vertu pour mieux dénoncer la corruption épouvantable de son collègue. Mais il est aussi corrompu que lui, bien entendu.
Est-ce qu'il y a un procès ?
Alors, il y a des procès. Il y a le procès des pilleurs de tombes. Des procès, d'ailleurs, qui, comme d'habitude, se terminent en eau de boudin. C'est-à-dire qu'on châtie très sévèrement quelques pauvres hères qui sont simplement des comparses. Et, bien entendu, on ne remonte jamais jusqu'aux plus hauts dignitaires qui sont, eux, qui tirent les ficelles. Mais ceci est quelque chose d'assez banal dans nos sociétés.
Et ces scandales faisaient absolument grand bruit. Ça remontait, bien sûr, jusqu'au sommet de l'État. Mais
oui,
est-ce que ça dépassait la région de Thèbes ?
Pharaon lui-même est bien entendu tenu au courant, on lui écrit des lettres et il est bien entendu tenu au courant de ses affaires dans lesquelles il intervient plus ou moins de loin. On ne le sent pas très engagé tout simplement parce qu'il n'a pas envie d'avoir de gros ennuis.
Quel est le profil des pilleurs ?
Alors les pilleurs, ce sont des gens qui sont des petits bourgeois ou des petits employés. Ce ne sont pas des rôdeurs, ce ne sont pas des brigands. Ce sont simplement des petits personnels des temples, petits personnels de l'administration qui, lorsqu'il y a une crise économique, a faim. Ils disent carrément, on avait faim, alors on a été pillé la tombe pour pouvoir acheter du grain. C'est donc quelque chose qui est lié à des séquences de crise économique.
On accuse aussi quelquefois d'autres populations, des populations externes, notamment les populations libyennes qui ont, je crois, bon dos d'être accusées.
Oui, alors il se passe une chose étonnante. À la fin de l'époque ramesside, il se passe que les Libyens rôdent autour et font des raids dans la vallée. Certains, d'ailleurs, s'acculturent. Et bien entendu, au moment où les procès sont dressés contre les pilleurs de tombes, on ne manque pas de citer en exemple les quelques malheureux Libyens qu'on a pu trouver dans la fermée. Ce ne sont pas eux les grands responsables. Les responsables, c'est le petit personnel subalterne qui a faim et qui, pour se nourrir, prend l'argent là où il le trouve, c'est-à-dire dans les tombes près desquelles il vit.
Pourquoi la répression est-elle si peu efficace ?
Parce que la corruption est partout. On a un texte absolument extraordinaire, parce qu'il est vraiment en égyptien dans le texte. On nous dit, on amena l'accusé devant le scribe, l'accusé donna 300 grammes de cuivre au scribe, et le scribe le libéra, à peu près. C'est dans le texte. Vraiment, la corruption est avouée sans aucun problème.
Alors là, il s'agit de corruption pour le petit personnel, mais visiblement, ça peut aller beaucoup plus haut, puisque là, les deux administrateurs, les deux gouverneurs de Thèbes sont dans l'affaire.
Absolument. Et d'ailleurs, là, ils ne sont pas inquiétés, bien sûr. La tentative de Passer pour déstabiliser son collègue tourne complètement à l'échec parce que son collègue mobilise les gens de Thèbes occidentale qui font une manifestation contre celui de Thèbes orientale. Et finalement, ça tourne en eau de boudin. Rien ne se passe. Les petits personnels est puni, mais les grands coupables sont bien entendu laissés sans aucun problème.
Les temples sont aussi l'objet de pillages ?
Alors, les tombes sont pillées, mais aussi les temples. Parce qu'il y a un phénomène sur lequel j'aimerais attirer l'attention. Lorsqu'on va en Égypte, on voit des temples de pierre. Mais il ne faut pas oublier qu'une partie importante de ces temples de pierre était recouverts de métal. Par exemple, les cintres, par exemple, les linteaux étaient recouverts de métal, d'or, d'argent ou de cuivre. Et donc, très souvent, c'était facile pour les pilleurs d'aller dans un temple avec des ciseaux, de retirer le cuivre ou le métal ou l'or, et ensuite d'aller le revendre. On a dans les textes qui nous parlent de ça, on a cette description. On nous dit « un tel avait faim ». Il a été dans le temple un tel. Avec son ciseau, il a arraché une quantité de cuivre qu'il a ensuite troqué contre des céréales.
Donc il y a déjà quantité de receleurs.
Absolument. Il y a des receleurs qui changent le cuivre ou le métal en céréales et en nourriture en général et en biens de consommation.
Des ouvriers spécialisés œuvrent à la construction des tombes royales. Ces ouvriers semblent bénéficier de véritables avantages pour l'époque. On pense par exemple à des congés payés, par exemple.
Absolument, ils ont ça. C'est la corporation, ce qu'on appelle les ouvriers de Deir el-Médina. C'est une corporation très particulière. Elle a pour charge la construction de la tombe du pharaon dans la vallée des rois. Et donc, elle est au service de l'État, lequel État lui accorde des avantages tout à fait considérables, allocation en orge, en bière, en poisson, en viande. Ils ont même du personnel à leur disposition et ils ont des jours de travail, mais aussi des congés lors des nombreuses fêtes. Et en fait, ils sont très souvent absents. On a des journaux de la tombe qui nous expliquent que très souvent, un tel est absent parce que c'est congé, parce qu'il fait l'offrande. Ils ont donc un statut privilégié dans la mesure où l'État est fort. À partir du moment où l'État commence à ne plus avoir d'argent, comme ils dépendent directement de l'État, ils ne sont plus privilégiés, ils ont faim et alors arrive ce qui devait est arrivé, ils se mettent en grève.
Il y a visiblement beaucoup d'absentéisme, en tout cas.
Les journaux de la tombe sont absolument éloquents à cet égard. On a la liste et tel jour et on voit un tel est absent parce qu'il a été piqué par un scorpion, un tel est absent parce qu'il faisait l'offrande, un tel est absent parce qu'il était en train de nourrir le bœuf d'un haut fonctionnaire. Enfin, vous imaginez aisément les motifs qui sont d'ailleurs parfois amusants à lire.
Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que le village de ces ouvriers Deir el-Médina est un des rares villages d'Égypte ancienne à avoir été fouillé par des archéologues, Pascal Vernus.
Vous avez parfaitement raison et vous avez mis le doigt sur un des problèmes de l'égyptologie. L'égyptologie est prestigieuse, mais en même temps, au point de vue archéologie, elle est souvent à la traîne des autres archéologies. Par exemple, en Égypte, l'archéologie urbaine est très en retard sur les autres archéologies. On a beaucoup de temples, on a beaucoup de pyramides, mais les villes, il en reste très très peu. Et Deir el-Médina est l'un des rares villages dont on peut dire qu'il a été vraiment bien fouillé et dont on connaît bien la structure. Mais c'est un village un peu à part parce que justement les gens avaient un statut à part.
C'est-à-dire qu'un village, je veux dire lambda, d'Égyptiens sur le Nil n'a jamais été fouillé pour l'époque pharaonique.
Il y en a quelques-uns, mais très très peu. Ils ont été surtout mal fouillés pour une raison très simple. Lorsque l'archéologie égyptienne a débuté, on cherchait le bel objet, parce qu'en Égypte, il y a des beaux objets. Et donc les premiers fouilleurs, ils regardaient avec mépris les structures en briques, parce que les villages habités étaient en briques. Ils ne s'en intéressaient absolument pas, ils ne cherchaient que le bel objet. Donc une grande partie de tout ce qui est l'archéologie urbaine moyenne a complètement disparu, soit à cause de la destruction du temps, mais surtout à cause de la destruction des archéologues, il faut bien le dire. C'est honteux pour nous, mais voilà, j'assume la honte de l'égyptologie.
En tout cas, on ne fait peut-être pas non plus sa carrière d'égyptologue en fouillant de tels villages. Il faut mieux peut-être se consacrer à des choses peut-être
plus maintenant. Ça a changé. Ce que vous dites est tout à fait vrai. Pendant très longtemps maintenant, l'égyptologie est un peu sortie de son splendide isolement. Nous avons d'excellents archéologues, Dieu merci, qui fouillent très très bien les restes urbains et ça a complètement changé. Mais ce que vous dites est vrai, disons, jusque vers les années 80 à peu près.
Alors pourquoi tout se passe, semble-t-il, assez bien à Deir el-Médina, ces ouvriers d'un seul coup se mettent en grève? Que se passe-t-il?
Il semble que l'État, qui est donc dont ils dépendent, soit en crise. Et pour une raison d'ailleurs qu'on l'on comprend à peu près. L'Égypte ancienne était prospère au Nouvel Empire, tout simplement parce qu'elle tenait sous sa suggestion, d'une part la Nubie au sud, d'autre part le Proche-Orient au nord. Mais à partir de Ramsès II, justement, après le conflit avec les Hittites, et surtout sous les successeurs de Ramsès II, l'Égypte va perdre peu à peu son droit de regard sur le Proche-Orient. Et quand je dis droit de regard, je dis tribu, n'est-ce pas? Toutes les cités du Proche-Orient étaient assujetties à verser des tribus qui faisaient l'opulence de l'Égypte. À partir du moment où l'Égypte ne les contrôle plus, elle ne reçoit plus ses tribus et l'État égyptien n'est plus en mesure de tenir le statut qu'il avait auparavant. Et donc les premières conséquences, c'est la tombe royale. Le pharaon n'a plus les moyens sur sa cassette personnelle de payer aussi bien qu'il le pouvait auparavant les ouvriers qui construisaient sa tombe. D'où les problèmes.
Pascal Vernus, il s'agirait peut-être même des premières grèves de l'humanité?
Je crois que c'est bien les premières grèves de l'humanité. Vous voyez que ce phénomène qui nous réjouit chaque année, eh bien déjà, il faut penser que nous étions qu'en 1250 avant Jésus-Christ, il existait déjà. Alors, c'est marqué dans le cas des ouvriers de Deir el-Médina, ils font grève d'une manière particulière. Ils quittent, bien entendu, le chantier de la vallée des rois où ils travaillaient et surtout, ils sortent de la zone qui leur était assignée parce qu'ils avaient une zone de de juridiction. Et ils sortent, ils passent à travers les redoutes qui contrôlaient l'entrée de la zone, et ils sortent. Et donc cette sortie est assimilée par les autorités comme un refus d'obéissance, comme quelque chose contre l'ordre, et c'est donc le moyen pour eux de montrer qu'ils sont en grève.
Une vraie manifestation, en
quelque sorte. C'est une manif, absolument. Mais c'est une vraie manif. Ils sortent avec femmes et enfants et ils hurlent « Nous avons faim, nous avons faim !» Oui.
Alors, ils ont faim justement parce que les greniers sont vides ou il y aurait des carences de l'État, voire même de la corruption, des détournements ?
Ben, c'est une cascade de causes et d'effets. Ils sont payés par les greniers de l'État. L'État n'a plus les tributs qu'il recevait du Proche-Orient, donc il a moins de moyens. Alors le peu de moyens s'est détourné, bien entendu, par les hauts dirigeants. Et comme toujours, il n'y reste plus rien pour ceux qui sont au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire pour les institutions dépendantes de l'État et en particulier les ouvriers de Deir el-Médineh.
Comment se règle cette affaire ?
Ça se règle tant bien que mal. Le vizir est interpellé. Alors il fait un beau discours captieux. Nous avons un morceau d'éloquence qui est absolument prodigieux. On dirait absolument un discours de nos hommes politiques. Il explique, il les embobine en disant de manière très compliquée « Si je suis venu, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pour rien. Je vous aime bien, etc. » Enfin, vous imaginez exactement.
Donc un texte difficile à traduire, j'imagine, pour un égyptologue.
Mais finalement, il les embobine. Et puis il arrive à trouver, en raclant les fonds de grenier, il arrive à trouver de quoi les apaiser jusqu'à la prochaine grève. Parce que toute l'époque ramesside va être marquée par ce déclin de l'État. Il n'y a plus les tribus des pays étrangers. Et donc, l'Égypte vit sur ses moyens. Quand la crue est bonne, on peut entretenir les services de l'État. Mais quand la crue est mauvaise, on ne peut plus. Et alors, à ce moment-là, les gens ont faim et manifestent.
La dernière affaire est peut-être encore bien plus grave. Une conspiration au sommet du pouvoir et ayant pour cible le pharaon lui-même, Ramsès III.
C'est une affaire... On a tout lieu de croire qu'il y avait beaucoup de conjurations. Mais la plupart du temps, le politiquement correct nous interdit d'en savoir quoi que ce soit. Il y a réticence. Là, un heureux hasard nous a livré une série de documents qu'on appelle le papyrus juridique, mais ils ne sont pas des vrais textes juridiques. Ce sont des textes à intention magique. Voilà ce qui se passe. Il y a une conjuration. La conjuration a été sévèrement punie et les responsables ont été condamnés à se tuer eux-mêmes ou à mourir de toute façon. Ramsès III, qui est mort, a peur que dans sa mort, par-delà sa mort, le sang de ceux qu'il a fait tuer rejaillisse sur lui. Et alors, on imagine un texte, qui est bien entendu une prosopopée, il est mort, mais on l'a fait rédiger par son successeur, dans lequel il prend la parole, il énumère le complot, l'ingratitude des comploteurs, et surtout, il se met à l'écart du sang qui est versé pour punir les comploteurs. C'est donc un texte de destination magique. Ce qui est très intéressant, parce que cette affaire de vouloir écarter, ne pas prendre sur soi le sang de ceux qu'on a fait tuer, est un phénomène qui est transculturel et qu'on retrouve dans d'autres civilisations. La comparaison est typologiquement très intéressante, je crois.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que cette conspiration comprend le harem de Ramsès III, mais aussi de très hauts dignitaires, chambellans et chansons, etc.
Alors c'est la première fois qu'on a justement des indications précises sur ce qu'étaient ces conspirations. On est au cœur de l'État. Alors, on s'aperçoit le cœur de la conspiration, c'est une des épouses, une épouse secondaire qui voulait mettre sur le trône son fils et non pas le Ramsès IV qui a succédé à Ramsès III. Alors, elle a des complices, les gens du harem, bien entendu, mais ça va beaucoup plus loin. La conspiration s'étend sur tout le haut personnel de l'Égypte. Ils ont dans leur poche, si j'ose dire, des généraux, ils ont des intellectuels, ils ont des gens extrêmement haut placés et les ramifications touchent presque toute l'Égypte. C'est déjà un complot d'une importance extrêmement, très très importante et très grave.
Les peines seront la mort, par le suicide notamment,
oui,
aussi les oreilles et le nez coupés,
alors, il y a
semble-t-il.
Plusieurs, on a toute une hiérarchie de châtiments.
Beaucoup plus fréquent.
Pour les grands coupables, le texte est assez réticent, mais on comprend bien qu'on l'oblige à suicider. Pour les gens, les comparses, on coupe le nez, les oreilles. C'est un des châtiments les plus courants. Nous avons même des représentations qui nous montrent ces condamnés qu'on envoie ensuite travailler aux mines en Nubie et dont le nez et les oreilles sont coupés. C'est le châtiment de base.
Et peut-on penser que nombre de pharaons aient pu périr dans de telles histoires ?
C'est presque une certitude. Bien que les sources soient très réticentes, parce qu'on n'aime pas parler de ça, c'est pas politiquement correct, on a quelques indices qui nous expliquent bien que certains pharaons ont été tués. Par exemple, on a Amenemhès Ier, un pharaon de la 12e dynastie, vers 2000 avant Jésus-Christ, qui semble avoir été victime d'un complot et mort à la suite, qui a été assassiné. Nous avons aussi un pharaon de l'ancien empire, Pépi, premier qui châtie un complot dans lequel ses épouses étaient engagées. C'est donc quelque chose d'assez général, ce qui n'est pas étonnant. Imaginez l'atmosphère de ces cours orientales, c'est tout à fait normal, si j'ose dire, qu'il y ait eu des conjurations.
Le Nouvel Empire, la période ramesside, sont-ils marqués par une crise de valeurs, une véritable crise morale profonde?
Il y a une vraie crise, et ce n'est pas seulement une crise pour la crise, mais c'est une crise qui entraîne une mutation. Je vais essayer de l'expliquer très clairement en deux mots. Auparavant, il y avait une éthique dominante. L'éthique dominante, c'était la suivante. Les institutions que le démiurge a créées, le dieu créateur a laissées sur Terre, ont en elles-mêmes de quoi rétribuer les actions. C'est-à-dire, si vous agissez mal, eh bien, vous en subirez les conséquences automatiquement. Si vous agissez bien, vous serez récompensé automatiquement. Il y a une sorte de mécanique, on croit, une sorte de mécanique de l'institution. Seulement, on arrive au Nouvel Empire, les idées évoluent, les gens, l'esprit critique se développe et on ne croit plus du tout à ça. Justement, ce Nouvel Empire, ces scandales dont on a parlé, marquent les esprits et l'élite dirigeante, l'élite des intellectuels, n'arrive plus à croire à cette vieille éthique selon laquelle l'institution aurait de quoi, en elle-même de quoi punir et châtier ou récompenser les actions. Désormais, elle va trouver une autre éthique. Alors, cette éthique est très intéressante parce qu'elle est beaucoup plus moderne pour nous. C'est l'éthique de la divinité personnelle. Au lieu de s'en remettre à la bonté ou à l'efficacité de l'institution, on sait que les institutions sont corrompues. Qu'est-ce qu'on fait pour mener sa vie? Eh bien, on choisit, parmi les multitudes de dieux, la divinité qui est la plus proche de vous et on s'en remet à elle. On institue un lien personnel entre la divinité et la personne en dehors de l'institution. Et donc, il y a une nouvelle éthique qui va s'avérer et qui, ensuite, marquera tout le reste de la civilisation pharaonique. Il y a donc, ce n'est pas seulement une crise, mais c'est une crise avec une mutation.
Et cette nouvelle éthique touche donc l'administration?
Elle touche la classe des lettrés. Dans l'Égypte ancienne, vous avez 1%, c'est l'élite lettrée, avec deux, à l'intérieur de l'élite lettrée, les dominants des dominants, pour reprendre le thème de Pierre Bourdieu, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, le pharaon et la cour, et puis les dominés des dominants, c'est-à-dire le scribe de base, le subalterne. Mais l'ensemble a une unité, et justement, cette crise de valeur touche toute cette classe dirigeante dominant des dominants comme dominée des dominants dans son ensemble.
D'où vient cette crise morale? Peut-on y voir, par exemple, une des conséquences de l'impérialisme égyptien?
Je pense qu'effectivement, ça peut être des motifs. Il ne faut pas oublier qu'au Nouvel Empire, l'Égypte, qui auparavant vivait repliée sur elle-même, va s'ouvrir. De l'Asie vont arriver techniques, idées, et c'est évident que ça provoque des mouvements dans les idées, pas seulement dans le bien, mais aussi dans les idées.
Pascal Vernus, merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Affaires et scandales sous les Ramsès, publié chez Pygmalion. Merci beaucoup. La semaine prochaine sera consacrée à Alésia et aux nouveaux projets qui l'entourent. Le Salon Noir a été réalisé par Daniel Finot, à la technique Jacques Vincent. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission ou la podcaster sur la page Le Salon Noir du site franceculture.com. Les sciences vous donnent rendez-vous dès demain, 14h, où vous pourrez retrouver Science et conscience de Philippe Petit, mais dans quelques instants à 15h, à plus d'un titre par Toufik Hakem et Jacques Munier.